Amen. Bonjour frères et sœurs. C'est bien d'être à nouveau avec vous ici. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Amen. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Et mon épouse et moi, nous avons rendu visite à mon fils Joël et Rahel. Et c'est comme ça que nous sommes venus rendre visite à frère David et les frères et sœurs à l'assemblée ici. Et sur notre chemin, on s'est arrêté en Allemagne. Donc je vous apporte les salutations donc de l'église des frères Gertrudwald et aussi les salutations de l'église à Bruxelles, de Bruxelles. Et les croyants à Bruxelles, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir frère David à nouveau avec nous. Ben, prie pour que son patron l'envoie en Belgique pour son travail. On a un très bon moment avec frère David quand il était dans l'église là. Et c'est toujours bien quand on a des visiteurs. Et vous entendez d'autres expériences et la façon dont la parole elle est prêchée. Je vois aussi la famille Young. Amen. Donc, on est très heureux que vous ayez pu venir ce matin. Amen. Donc depuis les uns, j'étais en Israël. Et on a eu un bon moment là-bas. On a rencontré différents prédicateurs que j'avais jamais rencontrés auparavant. Et donc en fait, je suis allé d'une convention à une autre. Et maintenant, pour le moment, on le prend un peu plus tranquille. Allez, j'essaye au moins. Donc si on peut se lever, si on peut prendre la parole de Dieu... Une écriture très courte. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Incline notre tête pour un mot de prière. Seigneur Jésus, c'est tellement merveilleux d'être là avec tes enfants, Seigneur. Seigneur, on s'attend à ce que tu sois avec nous ici ce matin. Veux-tu utiliser notre corps, que ce soit une bénédiction pour le peuple? Et nous demandons et prions ces choses dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Plus tôt cette année, donc j'étais en Ouganda. Je fais cette œuvre missionnaire maintenant depuis plusieurs années. Et chaque fois, c'est une nouvelle expérience. Et les choses qui se sont passées cette fois-ci ont battu tous les records, tout ce qui s'est passé auparavant. Et je suis très heureux que je savais que le Seigneur me protégeait et qu'il prenait soin de moi. savez, quand vous allez sur le champ de mission, vous essayez d'avoir un programme. Mais à un certain moment, vous savez que vous perdez le contrôle de tout. Et alors, la seule chose que vous pouvez faire dans ces moments-là, c'est seulement voir les événements qui se passent devant vous. Et pour un chrétien, c'est normal d'avoir des situations, qu'on soit dans des situations pareilles. Et vous retrouvez votre réconfort dans le message, dans les Écritures. Parce que quand je suis revenu d'Afrique, j'ai trouvé une citation où Frère Branham dit : j'ai jamais eu peur, jamais de ma vie, parce que je savais que c'est lui qui m'a envoyé et c'est à lui de prendre soin de moi. C'est vrai, vous voyez ? Il parlait de ses voyages en Afrique et en Inde. Il dit, j'ai des milliers de gens qui prient pour moi. Et je me sens en sécurité et je sens que vos prières m'enveloppent. Et croyez-moi, c'est vrai, quand vous êtes sur le champ de mission, que vous avez des gens derrière vous qui prient pour vous, les choses changent et vous vous sentez en sécurité. Et je dis toujours à l'église, quand je pars, je dis, s'il vous plaît, priez pour moi, gardez-moi dans vos prières. Et Frère Branham, il pose la question, pourquoi est-ce qu'un chrétien devrait être perplexé? Et ça s'est passé, c'est arrivé. En tant que chrétien, des fois, on est perplexé, Et des fois, on s'attend à ce que les choses aillent vraiment tout tranquille. Mais Frère Branham, il dit, ce n'est pas comme ça. Et nous savons cela. Et des fois, on a plus de problèmes que depuis qu'on est devenu chrétien qu'autrefois quand on était pêcheur. Et c'est des choses que nous ne pouvons comprendre. Et Frère Branham dit, la raison pour laquelle on ne peut pas comprendre cela, parce qu'il dit, si on pouvait le comprendre, alors on marcherait par la compréhension. Et le Seigneur veut qu'on marche par la foi. Donc on n'aille pas, qu'on ne va pas de l'avant par la compréhension, mais qu'on marche par la foi. Amen. Et quand on marche par la foi, on croit sa parole. Et ensuite, quand on a Romains 8, verset 28, où il est écrit que toute chose concourt au bien à ceux qui aiment le Seigneur. Et ensuite, vous voyez cette écriture devenir une réalité dans votre vie. Et donc, on marche par la foi. Et Frère Branham dit, si on pouvait seulement saisir que toute chose concourt au bien, il nous a envoyé sa parole, il a envoyé son fils, il nous a envoyé ses prophètes, il nous a envoyé la loi, il nous a tout envoyé pour attirer notre attention, et maintenant dans notre jour, il nous envoie le Saint-Esprit. Et c'est pour continuer le ministère que Jésus a fait quand il était ici sur la terre. Donc, frères et sœurs, nous ne sommes pas ici dans ce monde juste pour aller à l'église le dimanche matin ou être dans la réunion de prière au milieu de la semaine. Nous sommes ici pour continuer le ministère que Jésus avait ici sur la terre. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et on fait de notre mieux pour aller chercher des âmes et pour leur donner cet évangile de rédemption. Et fin janvier, j'ai quitté la Belgique. La façon dont Dieu a pris soin de moi, je ne peux même pas la comprendre en moi-même. J'ai eu un billet d'avion pour voler en business. Vous savez, des voyages pour aller en Afrique, je garde toujours mes miles. Quand on voyage, on collectionne des miles. Et 2 ans en arrière, il fallait 60 000 miles pour faire aller-retour en économie. Et maintenant, on m'a donné un billet pour 70 000 miles en classe affaires, en business. Et une sœur qui est dans le message, qui avait l'habitude de travailler pour les compagnies aériennes, elle m'a dit, mais frère Guido, comment tu as réussi à avoir un billet comme ça? Pour aussi peu de miles. Il dit, je ne sais pas comment ça marchait, mais j'ai eu ce billet. Et je me retrouve là, à l'aéroport de Bruxelles. Vous allez au lounge, vous avez le petit déjeuner gratuit, les boissons gratuites. Et maintenant, moi, je suis assis là. Et je dis, Seigneur, tu me gâtes là aujourd'hui. Et Seigneur, j'apprécie vraiment ce que tu fais pour moi, j'aime bien. Mais la façon dont tu me gâtes, c'est vraiment merveilleux. Et je dis, mais Seigneur, est-ce que ça va être dur en Ouganda? Et je suis allé dans l'avion. Et je suis arrivé là-bas, à l'aéroport d'Ouganda. Et le frère Ban, mon ami prédicateur, est venu me chercher. Il vit à l'ouest d'Ouganda. Et il avait son 4x4. Et il a fait une grande révision sur sa voiture pour être certain qu'on puisse aller dans tous les endroits. Et c'est difficile à croire, mais on a réussi à atteindre sa maison et c'était tout. Et voilà que son 4x4 était... Il a dit, bah, écoute, frère Guido, je suis désolé, ma voiture elle est out, on doit prendre les transports publics maintenant. Vous savez, c'est pas les transports publics qu'on a ici chez nous. Ils essayent de mettre autant de gens possible dans un bus. Et ensuite, ils prennent la route. Et puis, j'ai vu les gens là-bas, ils avaient des petites bouteilles d'alcool. Et j'ai vu un homme qui était en train de boire cela. Et j'ai découvert que c'était notre chauffeur. Donc, je crois qu'il avait besoin de quelque chose là pour... Je dis, oh my! Et on s'est approché de la frontière entre le Ouganda et le Congo. On a eu quelques réunions là-bas. Il y avait aussi un frère qui était là, des Pygmées, de la tribu des Pygmées. Oui. Et ces gens, ils sont vraiment séparés des autres gens. Mais un de ses frères est venu aux réunions. Donc j'étais très heureux qu'il ait fait cet effort. Et après les réunions, j'ai prié avec lui. Ensuite, on est allé en Reconjili. Et vous savez, en Afrique, dans les voitures, quand vous êtes dans les voitures, il y a toujours une lumière qui clignote. Et ça, c'est la lumière de la jauge d'essence. Ça clignote toujours. Même le taxi, vous prenez un taxi, ça clignote toujours. Et à un certain moment, la voiture, elle ne voulait plus avancer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et le conducteur, le chauffeur me dit, bah, il n'y a plus d'essence. Et je dis à frère Ban, je vais rigoler là. Ah, de toute façon, le fait d'être fâché, ça ne changera rien. Donc, les gens, ils ont sorti un banc. Et j'ai pu m'asseoir sur un banc. Ensuite, ils ont dû trouver quelqu'un qui avait un scooter ou une mobylette. Et va me chercher 5 litres d'essence, s'il te plaît. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Et ensuite, on a voyagé de Ibale à Reconjili. C'est plus ou moins 7 heures de voyage. Et j'avais un siège à côté du chauffeur. Et il y a une dame qui est à côté là et qui me dit, ah monsieur, il me semble qu'on voyage ensemble. Et je lui dis, oui, est-ce que toi aussi tu vas à Reconjili? Oui, on voyage ensemble, dit-elle. Je crois que c'était la façon dont cette dame était habillée, c'était quelqu'un de l'église anglicane. Et c'était vraiment une femme assez forte. Et vous ne pouvez pas empêcher cela. Mais... Et j'ai regardé l'espace entre le chauffeur et moi-même. Et je dis non, c'est pas possible, ça ne va pas aller. J'ai du mal à comprendre là. Et un peu plus tard, la dame, elle revient. Oui, il semble qu'on voyage ensemble, côte à côte. Et je regarde frère Ben et je dis, mais qu'est-ce que cela signifie? Et il me dit, ben, la dame, elle veut ce siège au milieu, là. Donc je sors du bus et la dame a pris sa place. J'ai pris ma place. Mais j'arrivais plus à fermer la porte alors. Donc le chauffeur, il est sorti pour fermer la porte. Et voilà, tout était serré. Pour 7 heures. Et quand on est arrivé là-bas, la dame a quitté. Et je n'arrive toujours pas à comprendre comment j'étais là pendant 7 heures. Dans ce bus. Mais tout a fonctionné. On a commencé les réunions là-bas. Et on est allé dans une petite église à Chitagata. Et je demande au frère, mais à quelle heure est-ce qu'on part? Alors, on se lève à 7 heures, we leave at 7? Ouais. Voilà, on part à 7 heures, on mange à 8 heures et à 9 heures, les réunions commencent. Et je dis, oh, ça ressemble pas à l'Afrique, ça. Mais bien sûr, 7 heures du matin, moi, j'étais prêt. Et je crois que c'était 9 heures avant qu'on quitte. Et toutes ces choses, ça va bien, mais... On a eu deux réunions là-bas, à cet endroit. Et au milieu de semaine, on a eu une réunion dans une prison. Et cette fois-ci, il y avait 300 personnes qui sont venues à la réunion. 2 ans en arrière, il y avait 200 prisonniers. Et maintenant, il y en avait déjà 300 qui sont venus à la réunion. Donc, vous voyez, les choses... Il y avait 300 personnes en prison. Et donc, vous voyez, les choses deviennent de pire en pire dans le monde. Parce que ça fait un tiers de prisonniers de plus qu'il y a 2 ans auparavant. Et cette année, j'ai spécialement prêché pour les sœurs qui étaient là-bas emprisonnées. Et j'ai prêché sur le sujet la belle Rahab. Parce que Frère Branham, il l'appelle la belle Rahab. Et j'ai prêché, vous voyez cette dame-là qui était plus bas que bas. Elle est montée, elle s'est mariée à un prince de la maison d'Israël. Et de là est venue la lignée de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc j'ai encouragé les sœurs qui étaient là-bas en prison. Et ensuite, on a voyagé vers l'est du pays. Et on est arrivé à Jinja. Et le pasteur là-bas, le frère Stephen, c'est un homme sage. Il me dit, premièrement, frère Guido, tu prends un jour de repos. Et je dis, oh, mais merci, frère Stephen. Parce que ça faisait déjà 10 jours qu'on voyageait et qu'on avait eu des réunions. Et frère Stephen m'a donné un jour de repos. Et de là, je suis allé complètement côté est d'Ouganda. Ça, c'est à Mbale. Donc, je suis arrivé là le mercredi. Et le jeudi, on a une petite réunion là-bas, dans cette ville. Donc le pasteur là-bas, il s'appelle le frère Jim Moussaka et je pensais qu'il était lié au frère Moussaka qui est à Paris. Mais il n'y a aucun lien de famille là, il n'y a pas de relation. Et en Afrique, on a toujours de merveilleuses réunions. Les gens sont tellement ouverts pour la parole de Dieu. Et les derniers week-ends, j'allais être avec le frère Abraham Moïse. Et le frère Abraham, il a un puissant témoignage. Il y avait une équipe de médecins qui arrivait de Belgique, là-bas au même moment. Au même endroit où j'étais là, et au même moment. Et donc moi, de cette équipe-là, je connaissais seulement une infirmière. Je crois que dans cette équipe, il y avait 39 personnes, de médecins, et il y avait des ophtalmos, des médecins, des infirmières, des gens même qui étaient dans le bâtiment, dans la construction. Et c'est tous des volontaires, ils font tout cela, donc c'est tous des volontaires. Ils payent leurs propres billets. Et j'admire vraiment le travail que ces gens font. Parce que ce n'est pas facile, les conditions dans lesquelles ils doivent travailler et tout ça. Il y a un jour où 4000 personnes d'Afrique se sont alignées, faisaient la queue pour avoir des soins. Et certainement, vous pouvez avoir une équipe de 40 personnes, mais ça ne signifie pas grand-chose pour tous ces gens. Et l'infirmière m'a invité à venir avec eux pendant un jour. Et je dis très bien, le vendredi, on n'a pas de réunion, donc je peux venir avec vous. Et ce jeudi soir, après qu'on a eu les réunions chez le frère Mosaka, je me tiens là en dehors de l'hôtel. Et je savais que l'équipe des médecins et tout ça, qu'ils allaient arriver là. Et vous êtes heureux de revoir des Belges là-bas en Afrique, que vous pouvez parler votre propre langue et tout ça. Et donc j'attends là devant l'hôtel. Il y a un homme d'Ouganda qui vient me voir et il me dit: Monsieur, est-ce que tu es avec l'équipe belge? Je dis non, mais je suis ici au même temps, au même moment. Et il me pose la question: est-ce que tu viens de Belgique? Et je dis oui. Et il me pose la question: mais qu'est-ce que tu fais là alors? Et je dis je suis un prédicateur. Et il me dit: tu es un pasteur de Belgique? Et je dis oui, monsieur. Il dit ouais. Il dit: je connais cette équipe de Belges là, de médecins, depuis des années. Mais il n'y a pas beaucoup de foi parmi eux. Mais quand les équipes d'Amérique viennent, ils ont leur docteur, ils ont leur prédicateur, ils ont leur infirmière. Mais j'ai jamais rencontré un prédicateur de Belgique. Et il s'est introduit, et il était un médecin là-bas, sur place. Et donc j'ai parlé quelques instants avec lui. Et je lui ai dit, peut-être pour toi c'est étrange d'entendre parler de la guérison divine et toutes ces choses parce que tu es un médecin. Il dit non, ils vont comme ça ensemble. Et il me dit: oh, moi je suis un docteur. Et je suis aussi dans la politique. Je suis dans le Parlement. Et j'ai trouvé faveur envers cet homme. Et ensuite, l'équipe arrive. Et il se prépare pour le souper du soir. Et le docteur qui me parle là, juste auparavant, là, il a un speech de bienvenue, un discours de bienvenue. Et tout d'un coup, l'infirmière qui est à côté de moi, elle me dit, mais Guido, il parle de toi. Et j'écoute ce docteur qui parle. Et il dit à tous, ah, je suis vraiment content que vous soyez tous là. Mais ce soir, on a une bénédiction spéciale qui est avec nous. On a un pasteur de Belgique qui est avec nous. Il dit, Guido, est-ce que tu peux te lever et demander la prière sur le repas? Donc je me suis levé et je me suis introduit rapidement et j'ai demandé la bénédiction sur le repas. Et je crois que c'est depuis là que les problèmes ont commencé. C'était des gens très gentils qui étaient dans cette équipe. Il y avait même un médecin. Parce que j'étais au coin de la table. Il dit, Guido, viens là, assieds-toi à côté de moi. Il dit, comment était ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Donc ça, c'était le samedi soir alors. Et je lui réponds, si je devais parler en langage de médecin, je dirais, j'ai eu 400-500 patients aujourd'hui. Mais je leur ai tous donné le même traitement. Il dit, ça fait plaisir d'entendre ça. J'ai ôté 8 cataractes. Le médecin a dit, j'ai ôté 8 cataractes. Et Frère Guido dit, c'est Marc, c'est merveilleux ce que tu as fait. Il y avait vraiment des gens très, très, très gentils, très sympathiques dans cette équipe. Mais le vendredi matin, quand on a quitté pour aller au Camarajon, j'avais jamais entendu parler de Camarajon, cet endroit. Je ne connaissais même pas les tribus qui étaient là-bas. Seulement, le jour auparavant, un des frères me donne quelques informations au sujet des tribus là-bas. Mais je ne savais vraiment pas à quoi je m'attendais là. Donc on sépare les équipes pour voyager. Il s'avère que ce médecin-là, le médecin local là m'a pris dans sa voiture, dans son 4x4. Et l'infirmière était également avec nous, un pharmacien, et ensuite le fils du docteur. Et on a voyagé sur des routes sur lesquelles je n'étais jamais auparavant. Parce qu'on roulait vraiment d'un talus dans un autre talus. Vous devez vraiment vous accrocher avec les deux mains au 4x4 dans la voiture. Et à un certain moment, le médecin dit, mes freins ont lâché. Et je regarde l'infirmière. Et les deux, on a rigolé. Parce qu'on pensait, il rigole, c'est une blague. Et finalement, on atteint un petit endroit. Il y avait un grand tas de sable. Il va droit vers ce tas de sable. Et c'est comme ça qu'on a arrêté la voiture. Et je regarde l'infirmière, je dis, mais c'était pour de vrai ce qu'il a dit. Maintenant, le reste de l'équipe arrive dans leur 4x4. Ah, juste, c'était juste un bus. C'était même pas un 4x4, c'était juste un bus. Ils avaient 14 personnes dans cette petite camionnette, ce petit bus. Ici, chez nous, vous avez maximum 8 personnes et le chauffeur. Et là, ils en avaient 14, donc 14 personnes dans la même voiture. La porte de la voiture s'est ouverte. Oh, regarde qui en a là, le prédicateur. He what? Ah, lui, il doit aller avec le 4x4. Avec la clim et toutes ces choses. Et c'est là où l'infirmière a pris ma défense. Et elle a dit, est-ce que toi t'aimerais conduire dans une voiture qui n'a pas de frein? Et alors ils sont calmés. On n'avait toujours pas atteint notre destination. Il restait 20 minutes à une demi-heure. Et donc il devait trouver un autre véhicule. Ils ont arrêté un autre bus. Ils ont dit, frère Guido, Guido, tu peux aller avec ce bus-là. J'ai pris une place dans ce bus. Et à côté de moi, un soldat est venu. Et j'ai souri. Est-ce que tu es avec moi pour ma sécurité? Il dit, oui monsieur, je le suis. Et je ne pouvais toujours pas réaliser ce qui m'attendait là. Je dis, ah, ça va bien. Donc maintenant, on s'approche de cette tribu. Ils vivent encore dans ces huttes. Ils ont leur propre manière de s'habiller. Ils ont leurs guerriers encore. Oh, des hommes très fiers. Et donc, on a dû leur demander des directions. Et donc, le conducteur, le chauffeur du bus, il dit, monsieur, est-ce que tu as déjà été ici? Je dis, non, c'est ma première fois. Et il me répond, bah, pour moi aussi, c'est la première fois. Donc finalement, on arrive à l'endroit. Alors toute l'équipe commence à sortir leurs affaires. Ils avaient un petit bâtiment là, que cette équipe de médecins pouvait utiliser. Et maintenant, les gens commencent à arriver. C'est vraiment terrible les choses que j'ai vues là-bas. Spécialement quand il s'agit des enfants et tout. C'était juste des petites blessures. Mais ils ne pouvaient pas les soigner. Et ensuite, il y a eu une infection. Et ensuite, les mouches sont venues là-dessus. Et des fois, dans leurs bras ou dans leurs jambes, ils ont carrément des trous. Et cette équipe devait travailler sous beaucoup de pression, de stress. Ils devaient faire les choses très rapidement. Ils n'avaient pas le temps de calmer les enfants et tout ça. Plusieurs fois, j'étais juste assis là en train de pleurer en voyant toutes ces choses. Et là, ils amènent une petite fille. Elle avait quelque chose à son pied. Donc le médecin, il prend. Bien sûr, l'enfant pleure et tout. Alors il met un peu de désinfectant et tout. Allez au suivant maintenant. Et j'avais cet enfant dans mes bras. Et je dis, mais où sont les parents? Je dis, mais j'en sais rien, regarde, cherche. Allez, au suivant. Et là, je me retrouve avec cette petite fille. Je sors dehors. J'ai trouvé personne. Et elle pleurait. Et finalement, elle s'est endormie. Et une demi-heure plus tard, sa sœur aînée est venue. Et ces gens, ces médecins, ils essayent d'aider et faire le maximum qu'ils puissent faire. Et maintenant, l'infirmière me dit, mais maintenant, le temps est là pour qu'on prenne nos affaires. Parce qu'il nous reste encore 4-5 heures de route avant d'arriver à l'hôtel. Je dis, oui, ok, moi ça va. Mais maintenant, le peuple là commençait à sentir que l'équipe allait partir. Et beaucoup d'entre eux n'avaient pas eu de traitement. Donc ils ont commencé à pousser pour rentrer. Moi, je suis allé à l'extérieur. Et je dis, s'il vous plaît, n'essayez pas de pousser pour rentrer. Les médecins ne peuvent rien faire quand il y a trop de gens à l'intérieur. Ils agitaient juste leur petit papier là. Parce qu'ils avaient leur nom là-dessus et puis le problème qu'ils avaient. Et ils poussaient. Et il criait. Donc j'essaie de les garder éloignés de la porte. Et il y a une dame qui se trouve là et elle dit, docteur, s'il te plaît, regarde mon bébé. Et je dis, je suis désolé, je ne suis pas docteur. Mais je suis un prédicateur et je vais prier pour ta fille. Il y a un autre homme qui se trouve là. Et il me dit, monsieur, laisse-moi, appelle un médecin pour voir mon fils. Certains de ces gens, ils parlaient un peu d'anglais. Et mon fils, il a besoin d'un spécialiste de l'œil. Et j'ai regardé les yeux de ce garçon. Et je dis, mais monsieur, des lunettes pour lire pour ton fils, ça servira à rien. Parce que j'ai vu qu'il avait la cataracte. Et je dis à cet homme, mais tu sais quoi? Je lui dis, je vais prier pour ton fils. Et en même temps, il y a ces gens qui poussaient, qui hurlaient, qui essayent de rentrer là-dedans. Donc j'ai pris ce garçon proche de moi, tout près de moi. Et j'ai prié pour ce garçon. Et maintenant, les gens se sont calmés. Il ne poussait plus. Et je regarde une personne plus âgée qui était à côté de moi. Il a ôté son chapeau. Et je voyais qu'il avait le même problème de ses yeux. Et je dis, monsieur, je prierai également pour toi. J'ai prié pour cet homme. Maintenant, le papa de ce jeune garçon, il dit, oh, monsieur, regarde ce que tu as fait à mon garçon. Il pleure maintenant. Je ne sais pas si ce garçon comprenait l'anglais. Et je lui dis, mais monsieur, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut guérir ses yeux de ton fils? Et je ne sais même pas s'ils ont entendu parler une fois du nom de Jésus-Christ. Mais j'avais préparé auparavant des petites cartes avec le nom du pasteur local, avec ses coordonnées, et l'adresse et tout ça. Et j'ai donné ça à cet homme. Maintenant, à l'intérieur, toute l'équipe avait déjà rassemblé les affaires et... Mais les gens commençaient à devenir agressifs. Parce qu'ils prenaient leurs affaires et ils allaient partir. Donc maintenant, là se trouve l'infirmière. Elle dit, Guido, le repas est prêt maintenant. Mais on ne va pas manger ici. Parce que les gens sont affamés. Et s'ils nous voient manger, ils sont déjà fâchés que nous quittions cet endroit ici. Alors la situation va être complètement en dehors de contrôle. J'ai dit oui, pas de problème. Parce qu'ils avaient leur propre équipe avec, qui faisait de la cuisine, donc qui faisait les repas, qui cuisinait. Quand on vient de l'Ouest pour manger là-bas, il faut vraiment être habitué à cela. Donc maintenant, tout est dans la voiture, donc tout est prêt pour partir. Et je me tiens juste là. Et tout d'un coup, une femme vient vers moi. Muzungu, elle me dit, et ça veut dire homme blanc. Œil mauvais, donne lunettes. Je dis non, mes lunettes ne servent à rien. Muzungu, donne-moi ta veste. Je dis non, je donne pas ma veste. Ce n'est pas que je ne voulais pas donner ma veste, mais si vous donnez votre veste à une personne, après, ils vous prennent toutes vos affaires. Rentre, Muzungu, rentre, pars d'ici. Et maintenant, l'infirmière est venue. Guido, on a vraiment une situation terrible là. Maintenant, vous pouvez comprendre ce qui se passe. Et moi, je me suis serré dans un des bus là. Mais on va devoir te laisser ici sur place. Je dis, si telle est la situation, donc je dis, ne vous inquiétez pas de moi. Et il y a un soldat. Il me dit, mais monsieur, tu dois partir avec le bus, là. Et je pensais qu'ils avaient changé peut-être le plan en dernière minute. Donc je suis allé voir le bus. Je n'oublierai jamais le visage que j'ai vu là-bas. Il n'y a pas de problème, je comprends qu'il n'y a pas d'espace ici, mais c'est le soldat qui m'a dit de venir ici, donc. Et ils ont quitté. Ils ont laissé tout l'équipement derrière. Et j'ai vu ce bus partir. J'ai dit, oh my. Frères et sœurs, ce sont des situations je ne peux toujours pas comprendre comment j'ai réussi. Et j'ai regardé autour de moi et tous ces gens qui étaient fâchés, en colère, Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici. Et c'est toi qui prends soin de moi. Ça, c'est une promesse dans ta parole. Et sa paix est venue sur moi. Les circonstances n'ont pas changé. Mais sa paix est venue sur moi. Et ensuite, il y a mon fils Josué qui a essayé de m'appeler sur mon portable. Et je lui ai juste dit brièvement, je lui ai expliqué la situation. Et je dis, mais n'en parle pas à la maison pour pas qu'il panique. Oui, je veux pas qu'il se fasse de soucis. Et parce que je dis à mon fils, je crois que les choses, toutes choses concourent. Et je crois que c'était environ 20-25 minutes. Et tout d'un coup, il y a le 4x4 qui refait surface. Donc le docteur local, il a trouvé finalement quelqu'un pour réparer ses freins. Et donc on commence à charger le 4x4. Vous savez, le problème, c'était la nourriture. Ce jour, depuis 8h du matin jusqu'à 9h du soir, j'avais seulement 2 bananes à manger. Et vous savez, ça ne va pas très bien avec mon diabète que j'ai. Mais la façon dont ces bananes m'ont nourri, jeudi soir, comment ces bananes sont venues à moi, comment j'ai réussi à avoir ces bananes. Donc le jeudi soir, là, avant donc on part, il y a frère Abraham qui m'amène à l'hôtel. Il me dit, mais frère Guido, est-ce que tu as besoin de quelque chose pour ta chambre? Je dis, non, ça va bien, frère Abraham. Et quelques instants plus tard, il me repose la question, mais frère Guido, est-ce que tu as besoin de quelque chose dans ta chambre? Non, je crois que j'ai tout là dans ma chambre, c'est bon. Et une troisième fois, il me pose la question. Frère Guido, est-ce que je peux aller te chercher quelque chose? Je dis, ok, écoute frère, si tu peux trouver quelques bananes et peut-être des biscuits secs, ça serait bien. Et il dit, ok, je te dépose à l'hôtel et j'irai chercher cela. Et donc, moi, je suis allé à l'hôtel. Et là, je vois un panneau, un écriteau. Il est strictement interdit de faire rentrer de la nourriture ou des boissons depuis l'extérieur à l'intérieur. Oh, il dit, j'espère que frère Abraham... Donc, frère Guido, il s'est dit, j'espère que frère Abraham n'aura pas de problème en m'amenant cela. Et maintenant, cet hôtel a un niveau de sécurité. Donc, quand tu arrives au portail, ils vous scannent complètement, ils scannent la voiture. Et ensuite, tu peux te garer. Ensuite, tu rentres à la réception. Il y a un agent de sécurité qui se trouve là. Et ensuite, tu vas à la réception. Et ces gens, ils vous donnent votre chambre. Parce qu'ils ne permettent pas des visiteurs vers la réception, là. Et ce jeudi soir, il y a quelqu'un qui frappe à ma porte. Et là se trouve frère Abraham. Avec les bananes, avec les biscuits secs et quelques boissons. Et j'ai rien dit, on parle juste simplement. Et il a quitté. Et ce vendredi matin, donc quand on est parti, j'ai mis quelques bananes dans mon sac à dos. Et c'est la chose que j'avais à manger pour ce vendredi. Mais maintenant, moi, je pense à frère Abraham. Et quand je l'ai vu le samedi, et j'ai dit, oh, mais frère Abraham, le Seigneur vraiment t'a mis à cœur de me donner quelque chose à manger. Et frère Guido lui dit, mais quand j'ai vu cet écriteau qui disait interdiction d'amener à manger, je me faisais de soucis pour toi. Et il me dit, mais frère Guido, tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé. Je t'ai laissé à l'hôtel, j'ai acheté la banane, j'ai acheté les biscuits. Je suis retourné. Il n'y avait personne à l'entrée. Donc personne au portail. Je me suis garé, je suis allé à la réception. Il n'y avait aucun agent de sécurité. À la réception, il n'y avait personne. Je suis venu tout droit vers ta chambre. Et je dis, mais c'est merveilleux. Comment le Seigneur a pris soin de moi. Et donc ce vendredi soir, on rentre donc dans le 4x4. Et on est en route pour l'hôtel. Et dans le 4x4, je dis, mais moi, je suis fini. C'était vraiment trop, trop aujourd'hui. Et j'ai dit, mais Seigneur, j'ai besoin d'un peu d'encouragement. C'était quelque chose d'avoir vécu tout cela. Et tout d'un coup, la présence du Seigneur est venue dans ce 4x4. C'était si puissant que je pensais carrément que ça m'a enlevé de ma chaise. Et le fils du docteur était assis à côté de moi. Et je dis, Yona, est-ce que tu sens cette présence? Et Yona me regarde comme ça. Il dit, mais Guido, de quoi est-ce que tu parles? Quelle présence? Et Yona, je dis, ok, ça va, c'est juste pour moi alors. Et quelques jours plus tard, je raconte au frère ce qui s'était passé dans ce 4x4. Et finalement, on a atteint l'hôtel. Et là, le Seigneur continue à travailler. J'ai tout de suite demandé à l'hôtel une bouteille de Coca-Cola. Et là, je vois le docteur et son fils. Et je dis, est-ce que vous voulez boire quelque chose? Et ensuite, l'épouse du docteur est venue. Et donc, le docteur m'a présenté sa femme. Et elle me pose la question, et toi, est-ce que tu es un docteur aussi? Non, je suis qu'un prédicateur. Oh, les prédicateurs, ils sont très importants, elle dit. Et je dis, mais merci, sœur. Et je dis, excuse-moi que je t'ai appelé sœur, mais... Elle dit, non, Guido, ça va. Et je suis une pentecôtiste. Je dis, oh my. Et donc, j'ai trouvé faveur auprès de cette famille. Mais l'équipe, bien sûr, là-bas, ça a posé quelques problèmes parce qu'eux, ils ont dû voyager dans ce bus. Moi, j'ai pu voyager avec le docteur dans son 4x4. Mais vous savez, Frère Branham dit, quand vous venez sous la pression, les choses qui sont à l'intérieur vont sortir. Et bien sûr, ces gens-là, ils étaient vraiment sous une très forte pression. Et je ne veux certainement pas les juger, la façon dont ils ont agi, mais parce que je ne pouvais pas comprendre tout ce qui se passait, mais... Pourtant, j'avais environ 20 kilos de bagages pour eux, avec moi. Je les ai aidés à installer la climatisation, parce qu'ils n'avaient pas la moindre idée comment faire fonctionner cette climatisation. Donc c'est comme ça que j'ai pu les aider aussi. Et donc là, le samedi, les réunions commencent. Frère Abraham me prenait à l'hôtel pour les réunions, pour aller aux réunions. Et je suis arrivé là, à la réception. Et il me dit, mais frère Guido, tu sais, je suis très surpris de te voir à nouveau ici. Et je dis, allez, frère Abraham, qu'est-ce que tu me racontes, là? Il me dit, frère Guido, quand jeudi, tu m'as raconté que tu allais aller au Camarajon, là, à cet endroit. Il me dit, je t'ai rien dit parce que je ne voulais pas te faire peur. Et je savais que si le Seigneur t'envoie là, que le Seigneur allait prendre soin de toi. Mais je suis tellement surpris de te voir avec nous ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire quand vous entendez cela? Et donc on a eu une réunion le samedi matin et le samedi soir, qui étaient vraiment des réunions merveilleuses, puissantes. Les gens sont venus de toutes les régions. Et les réunions ont monté. Plus les réunions avançaient et plus ils montaient. Je ne pouvais pas comprendre l'attitude des Belges, là. Certains d'entre eux m'évitaient carrément. Je n'arrivais pas à comprendre cela. Il y avait un homme même qui était là, de la télévision belge. Et il me dit, Guido, est-ce que je peux te poser quelques questions? Oh oui, pas de problème. Et il me dit, ben, je t'appelle dans quelques instants. Et après un moment, il revient. Il dit, je suis prêt. Donc ce qu'il avait fait, il avait préparé sa caméra, les spots et tout. Et il a vu que ça m'a rendu nerveux un peu. Parce que j'ai jamais eu d'interview, moi. Il dit, Guido, regarde pas les lumières, les spots. Tu me regardes, moi, et moi, on filmera. Moi, je vais te poser des questions. Alors, il me pose des questions. Qu'est-ce que je faisais là-bas? Et je lui ai parlé au sujet du message. Le message du temps de la fin. Et ensuite, il m'a dit, mais je comprends, cet homme, il m'a dit, j'ai compris que tu es un homme marié et tu voyages dans le monde entier. Je dis, oui, c'est oui, monsieur. Donc, tu quittes la maison, il m'a dit. Et ta femme te dit, oui, on se revoit la prochaine fois. Et je lui dis, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je quitte toujours ma femme avec les larmes pleines aux yeux. Mais elle ne m'a jamais dit que je devais rester à la maison. Et je lui dis, je vais te raconter quelque chose que tu pourras comprendre. J'ai dit, il n'y a pas une épouse qui veut partager son mari avec quelqu'un d'autre. Je dis, c'est la vérité. Et j'ai dit, oui, mon épouse, ma femme, elle doit me partager avec le public. Et ce n'est pas facile. Je citais seulement ce que Frère Branham dit. Et ça, c'est la dernière chose que je voulais qu'il soit sur la télévision belge. Et quelques jours plus tard, il me dit que voilà, il y a eu un problème avec la caméra. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec toute cette interview, mais ça, c'était toutes les choses qui se passaient aussi. Après, on a eu donc ce week-end de réunion chez les frères Abraham. Et Frère Branham parle de ces signes qui suivront les croyants. Il parle les croyants, il dit les croyants, pas ceux qui pensent négativement. Pas les membres de l'église intellectuelle. Il dit, mais les croyants qui sont nés de nouveau. Ceux qui viennent de l'intellect au cœur. Donc qui vient de l'intellect au cœur. Et là, Dieu a pris son trône, a mis son trône. Et alors, il est dans sa tour de contrôle. Et là, il contrôle vos émotions. Il contrôle votre foi. Il contrôle votre caractère. Donc, il vous a complètement dans sa main. Et c'est comme ça qu'il veut que nous soyons, frères et sœurs. Qu'il ait un contrôle complet de nous. Et quand il dit... marche, on marche et on ne raisonne pas. Parce que la raison, le raisonnement, c'est la chute de la race humaine qui a fait là. Le raisonnement vient droit de l'enfer. Lui, il veut qu'on croie et qu'on croie seulement sa parole. Et ensuite, il nous a envoyé un prophète pour nous ouvrir la parole. Et on remercie le Seigneur pour ces choses. Et ensuite, quand vous êtes dans des situations étranges, vous savez que c'est lui qui prend soin de vous. Et vous savez alors qu'il a tout sous contrôle. Et vous regardez juste les choses qui se passent alors. Et je suis d'accord. Ce n'est pas toujours joyeux de passer par ces moments-là dans des situations comme celle-ci. Mais ensuite, de savoir que vous êtes dans sa volonté et que c'est lui qui prend soin de vous, ça rend les choses plus faciles. Il dit, personne, même Jésus-Christ lui-même, le Fils ne peut rien faire par lui-même, à moins qu'il voie le Père le faire. Ainsi, le Fils fait la même chose. Donc, quand lui, il est sur la tour de contrôle, alors vous êtes dans ses mains, et donc vous ne devez pas vous inquiéter sur les choses qui se passent. Et quand frère Abraham, là, il est venu vers ma chambre, il a regardé le numéro de ma chambre. Il dit, ah, mais tu es, frère Guido, tu es dans la même chambre que frère Gert Rodewald il y a 2 ans en arrière. Et je regarde la clé dans ma main. Il dit, mais frère Abraham, tu veux me dire que cette clé, frère Gert Rodewald la tenait dans ses mains il y a 2 ans en arrière. C'est juste merveilleux de voir ces choses-là. Et c'était la dernière semaine que j'étais en Ouganda, où j'étais dans un hôtel. C'était juste cette semaine-là où j'étais dans un hôtel. D'habitude, je reste avec les gens dans leur maison ou leur où ils vivent. Mais là, à l'est, je connaissais personne, donc je suis resté à l'hôtel. Et donc j'ai écrit à frère Abraham. Frère Abraham, pardonne-moi si j'ai pris la décision trop rapide du fait d'aller à l'hôtel. Peut-être tu aurais prévu quelque chose d'autre, mais il me répond, frère Abraham, il dit, non, frère Guido, c'est exactement à cet endroit où je voulais que tu sois, à cet hôtel-là. Et maintenant, on avait la réunion le dimanche. Et donc, le dimanche, c'était la dernière réunion qu'on avait dans ce pays. On a eu 14 réunions en tout. Et vous donnez vraiment tout ce que vous avez. Et cette réunion du dimanche matin, après cette réunion, on a eu quelque chose à manger. Et frère Abraham m'a dit, la prochaine réunion est 3h45. Et on est allé manger quelque chose. J'ai mangé mon repas et je me suis endormi. Je me suis endormi et je suis comme rien. 3h45, je me suis réveillé. Et les frères me regardent. Do you have a vision? Ah, frère Guido, est-ce que tu as une vision? Et je dis non, c'est 3h45, on doit aller à l'église. Et on est retourné à l'église pour la réunion. Et moi, à la fin de la réunion, j'ai dit au frère, oui, vraiment, je suis épuisé là. Vous m'avez épuisé. Et on commence à chanter des chants. Je me suis assis. Et ensuite, l'adoration est venue sur les gens. C'était tout simplement merveilleux. La façon dont les gens adoraient Dieu. Et je suis assis là. Je reprends mon souffle. Et tout d'un coup, je me retrouve en train de danser sur l'estrade. Je sais que ça semble être étrange. Mais c'est ce qui s'est passé là-bas. Alléluia. Les choses qui se sont passées là. Et là se trouve le pasteur aussi. Il dit, oh, frère Guido. Les gens n'ont jamais vu un homme blanc danser. Ensuite, je suis rentré à l'hôtel. Je ferais mieux de m'humilier là maintenant. Et je vais voir l'équipe qui était dans la construction. Leur faire savoir que je vais encore les aider. Parce que moi, je savais, j'étais dans le bâtiment auparavant, donc je savais comment construire les choses. C'était mon métier avant. Qu'ils n'aient pas l'impression que moi, je suis toujours dans le Jeep et... Et puis, je dis à l'équipe, écoute, je vais aller avec vous pour construire, poser des briques. Construire. Il dit, oh, oui, très bien. Un peu plus tard, je les revois. Et je leur pose la question, mais à quelle heure est-ce qu'on part? Ah, non, non, on a changé le programme, on m'a dit. Tu ne dois pas venir avec nous. Et croyez-moi, frères et sœurs, là, c'était la première nuit où j'ai vraiment très bien dormi. Parce que je savais qu'il n'y avait pas de réunion après. Donc je savais que je pouvais vraiment me détendre là. Et j'ai dit ça à ces gens qui étaient dans l'équipe de construction. Et je dis, je veux vraiment vous remercier pour cela. Donc maintenant, mon lundi, chouette, je ne dois même pas construire, c'est bien. Je peux me détendre, marcher un peu. Et en dehors de l'hôtel, et là se trouve l'épouse du docteur et son fils. Et elle me dit, Guido, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Juste, je regarde un peu autour, je ne fais pas grand-chose. Elle dit, viens avec moi, je vais t'amener au... Ouais. Yeah. Bidonville ou... Ouais, bidonville. Là où il y a vraiment tous les pauvres. Et il y a une église qui est là-bas. Et j'aimerais t'introduire aux prédicateurs qui sont là-bas. Je dis oui, ok, ça va avec moi. Attends, je vais juste prendre mon sac à dos, je lui dis. Et donc, nous sommes partis avec donc, l'épouse et son fils. Et on est arrivé là, à l'église. Et là, l'équipe arrive au même moment. Et bien sûr, ils me voient sortir du 4x4. Ah, donc, une partie de cette église, ils étaient en train de faire le bâtiment, là, refaire, reconstruire. Et donc, l'infirmière me dit, Guido, ça fait des années que je fais ce travail-là. Mais j'ai jamais eu le temps de prendre des photos. Est-ce que je peux te donner ma caméra et que tu prennes quelques photos? Oui, pas de problème. Et je te donnerai même mes photos que j'ai prises et tout ça. Donc je me promène maintenant là-bas et je prends les photos des différentes activités. Et là, elle est chef de l'équipe. C'est un homme vraiment gentil. Il me dit, Guido, ça ne me dérange pas que tu prennes des photos. Mais tu ne les utilises pas pour ton œuvre missionnaire. J'ai dit, non monsieur. Je n'utilise pas ces photos pour mon œuvre missionnaire. Je donne simplement cet appareil à Christiane, c'est le sien. Et elle peut en faire ce qu'elle veut. Ok, on se comprend. Donc moi je prends des photos. Et tout d'un coup, il y a une des dames. Monsieur, je suis très dérangé que tu prennes des photos. Et je vais vous expliquer. Ah, je voulais expliquer, mais elle me répète. Je suis très dérangé, ça me dérange vraiment que tu prennes ces photos. Madame, je suis vraiment désolé, je ne prendrai plus de photos de toi. Je vais m'asseoir et puis dans l'église il y avait un rideau de l'autre côté, donc l'équipe était en train de travailler et maintenant de l'autre côté du rideau j'entends des chants. Alors je tire le rideau et les gens commençaient à se rassembler là. Il commence à chanter. Et je dis, oh, je ferais mieux d'aller de l'autre côté maintenant. Et je me suis assis avec les gens. Et bien sûr, je ne pouvais pas comprendre leur langage. Mais ils chantaient, ils priaient. Et quelqu'un est venu me voir, quelqu'un qui parlait l'anglais. Et elle me dit, monsieur, on est très content que tu es avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux t'introduire aux gens ici? Peut-être donner une petite exhortation ou un témoignage. Je dis oui, il n'y a pas de problème. Je dis, mais si l'équipe de l'autre côté du rideau entend ma voix et que les gens commencent à louer, il y aura des soucis là. Donc maintenant, je souffle tout doucement dans l'oreille du traducteur. Et le traducteur le traduit dans leur langage, leur langue. Et les gens, ils tapent les mains. Et ensuite, les prédicateurs sont venus. Et ils commencent à prêcher dans leur langage. Et moi, j'étais juste assis là. Il y a une des sœurs. Et elle vient vers moi avec une Bible anglaise. Et elle me dit, bah, il prêche au sujet de cette écriture. C'était dans le livre de Josué, quand ils allaient prendre Jéricho. Et Josué a ordonné le peuple. Il a commandé le peuple, n'élevez pas votre voix, restez tranquille, jusqu'à ce que je vous donne le signe. Oh Seigneur, vraiment, tu as le contrôle de tout. Et Frère Banamidi, il est ici dans sa parole aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est aujourd'hui dans sa parole? Le croyant, il sent les paroles dans le livre. Et la parole est lui. Donc il est ici aujourd'hui, frères et sœurs. Et il manifeste la même chose qu'il a fait là-bas. Et cette épouse, elle ne peut pas reconnaître une autre tête. Il n'y a pas d'évêque. Il n'y a rien. Elle reconnaît une seule tête. Et ça, c'est Christ. Et Christ est la parole. Oh, Frère Banamé dit, oh, my, oh, j'aime cela. Amen. Le but du Saint-Esprit, dit Frère Branham, c'est le Père à nouveau. Dieu le Père demeurant en vous. Accomplissant son plan pour finir le plan de la rédemption. Et il m'a appelé moi, vous et moi, pour être un co-ouvrier avec lui. Donc on n'est pas juste là assis en train d'écouter. Non, on est des co-ouvriers avec lui. Et il vous donne un endroit, une place pour votre père et frère qui est tombé, qui est perdu. Et donc il vous a placé là pour que tu puisses les aider. Pour aider ceux qui sont perdus. Pour ceux qui sont en dehors du chemin, pour les encourager, leur donner une exhortation. Juste dire, oh non frère, non sœur, ne va pas sur ce chemin-là, reste dans la parole. Et c'est comme ça qu'il agit dans nos jours. Et donc le mercredi là, c'était le temps de rentrer à la maison. et j'avais un vol de nuit. Donc je ne devais pas quitter trop tôt. Et là, je prends le petit-déj. Et là, il y a l'épouse du docteur. Elle me voit à nouveau, elle dit, est-ce que je peux me mettre à ta table? Et on parlait à nouveau. Et ensuite, on lui amène le repas. Et je dis, sœur, est-ce que ça va si je demande la bénédiction? Elle dit, oh oui Guido, s'il te plaît, fais-le. Parce qu'on est tellement occupé. Et on oublie de prier. Donc, on a eu une très bonne conversation avec la dame. Et ensuite, frère Abraham est arrivé. Il me dit, frère Guido, il n'y a plus aucun litre d'essence à trouver dans toute la ville. Je dis, mais frère Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, mais je ne sais pas. Mais quand je suis rentré à la maison, il m'a dit hier, j'avais vraiment un sentiment fort qui est venu sur moi de faire demi-tour, d'aller prendre de l'essence. Et j'ai fait demi-tour, je suis allé à la station d'essence, j'ai mis un peu de diesel dans la voiture. Et je lui pose la question, alors frère Abraham, jusqu'à quel point on peut-on aller? Quelle distance peut-on rouler? Il me dit, bah, peut-être on arrivera à Kampala. Et puis là, la situation sera différente. Je dis, ok, ouais, ça va. Mais si on trouve une station d'essence, il y a encore du diesel, alors remplissons le réservoir. On était juste peut-être à quelques kilomètres en dehors de la ville. Et j'ai vu une station d'essence. Gaz, zéro. Kérosène, zéro. Diesel encore disponible. Et j'ai dit, frère, arrête-toi! Donc on a rempli le réservoir. Et on reprend la route. Et il me dit, frère Guido, c'est la première fois que je conduis cette voiture avec le réservoir plein. Je dis, oh frère Abraham. Et là, il met sa musique dans la voiture. Le chant exactement au bon moment, le chant qu'il fallait. Seigneur, je rentre à la maison. Il n'y a rien qui me retient ici. Abraham, écoute-moi ce chant. Je rentre à la maison. Plus tard, j'ai découvert que c'était un chant de la congrégation. Il y a des années en arrière, de l'église de frère Donnie Reagan. Il avait, je crois, 150 chants sur son lecteur. Et juste à ce moment-là précis, ce chant qui se met à jouer. Donc on a atteint Kampala. Il n'y avait plus d'essence. La distance n'est pas loin. Mais ça vous prend beaucoup de temps. Mais donc, on n'avait plus de soucis à se faire parce que le réservoir, on avait fait le plein. Et ensuite, on a eu le souper chez un frère qui est proche de l'aéroport. Et j'ai fait l'enregistrement. Et je suis rentré dans l'avion. Je n'arrivais pas à croire. J'ai commencé à toucher les choses dans l'avion. Je me dis, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment dans cet avion? j'ai pris ma serviette. Oh, une serviette blanche. Ensuite, le steward. Et je lui ai dit, excusez-moi, monsieur, si j'agis un peu bizarrement, mais je suis tellement heureux de rentrer à la maison. Et d'habitude, quand on décolle, j'aime pas trop ces moments-là au décollage. Mais cette fois-ci, je sentais comme les anges me portaient m'envoler. Et je suis arrivé à Bruxelles le matin. Et ma fille Grace m'attendait. Et je l'ai embrassée. Et j'ai dit, Grace, est-ce que c'est vraiment toi? Après que nous devenions sa propriété et notre confession et notre baptême et notre promesse de marcher dans notre vie pour lui, ensuite toute épreuve qui vient sur nous est pour nous perfectionner pour sa gloire. Amen. Et souvenez-vous, dans toutes ces choses, Satan essaye de vous rendre nerveux, de vous fâcher, pour que vous pensiez, pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? C'est son travail. Comme le prédicateur là, qui venait des États-Unis quand on était en Israël. Il dit, ces démons et ces les diables, ils sont très bien organisés, il dit. Ils viennent là devant le Seigneur. Est-ce que je peux donner à ce frère, à cette sœur, cette épreuve aujourd'hui? Et le Seigneur devait lui permettre. Et après, il regarde l'épreuve. Il dit, non. Pour ça, tu attends quelques instants. Mais alors, est-ce que je peux lui donner ça? Et le Seigneur dit, oui, tu peux y aller. Et ensuite, le Seigneur a un grand sourire. Et le Seigneur dit, pauvre diable, il ne sait pas ce qu'il va ramasser aujourd'hui. Amen. Amen. Non, 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 légère affliction qui ne sont que pour un instant, un laps de temps. Et bien plus dépasse vraiment au-delà de ce poids éternel de la gloire. Paul, il parle de ce moment. Et quand tu es dans l'épreuve, ça ne ressemble pas juste à un moment. Mais quand Paul dit que c'est juste pour un moment, alors on dit Amen à cela. Amen. Et donc, de retour à la maison, j'avais un rendez-vous avec mon médecin, je crois, la semaine qui suivait. Le spécialiste qui me suit avec mon diabète. Et bien sûr, la condition de mon corps était très faible. Et là, le médecin, il se trouve là. Et elle me dit, mais comment tu survis à des choses comme celle-ci? Alors je réponds au médecin, je dis, je sais que c'est très difficile pour toi de comprendre, de croire. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui prend soin de moi, je lui ai dit. Elle a eu un grand sourire, elle me regarde. Elle me dit, mais monsieur, maintenant je dois le croire.
parce que je te vois en face de moi. Amen. Alléluia. Ravana me dit, quand on est des chrétiens nés de nouveau, ça c'est le... Réserve. Ah, quand tu viens d'une bonne lignée, un stock. Un chrétien né de nouveau, ça c'est la lignée de Christ. Donc on vient de Christ et le test sanguin va prouver que nous sommes tous des chrétiens. Amen. Et si on va tous être comme de cette façon-là là-haut, on pourrait aussi être de cette façon ici. On ne doit pas attendre jusqu'à ce qu'on arrive là-haut pour être de véritables chrétiens. Il dit non, vous pouvez l'être ici à l'instant même. Parce qu'on a toute promesse, toute écriture pour cet âge. On voit les choses qui se passent. On voit le roi du Nord qui prend position. On voit le pape qui prend sa position. L'Église qui prend sa position. Mais l'épouse également prend sa position, vient à sa position. Et l'épouse est la seule qui peut manier cette parole. Et Frère Banami dit, quand quelque chose va de travers, va mal, et quand tu as une épreuve, cela signifie qu'il a confiance en vous. Il sait que vous allez traverser cela. Ça peut être terrible, ça peut être dur, mais il vous voit vous en sortir. Et ensuite, vous avez l'épreuve. Et vous sortez de cette épreuve avec un témoignage. Amen. Donc que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Si on peut se lever pour un mot de prière. Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, d'avoir été ici avec tes enfants. Et je prie que cette parole a été un encouragement, une bénédiction pour eux. Seigneur, juste leur faire savoir qu'ils font tous partie de cela. Parce que tu as donné à chacun une position ici dans ce monde. Et Seigneur, nous sommes tellement heureux que nous puissions nous tenir dans notre position, sachant que c'est toi qui nous as conduits là-dedans, Seigneur. Bénis cette congrégation, Seigneur. Sois aussi avec Frère David et sa famille et les frères et sœurs ici de l'Assemblée. Que leur lumière puisse briller, Seigneur, pour que ce monde puisse voir que Jésus-Christ est vivant. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Puissant.